Bonjour à tous et bienvenue dans Splash & Go, l'émission de la rédaction d'US Racing. Et oui, cette semaine, encore une fois, deux numéros au programme pour parler majoritairement de NASCAR, puisqu'il y a eu une course du côté du Kansas dans la nuit de jeudi à vendredi pour nous en France. Et on parlera aussi un tout petit peu d'IndyCar, puisqu'il y a de l'actualité. Et pour m'accompagner, comme d'habitude, fidèle au poste, Lilian. Salut Lilian.
Salut Geoffroy et bonjour à tous.
Alors Lilian, j'ai mis le générique de la NASCAR bien évidemment, mais on va parler un tout petit peu avant d'IndyCar si tu le veux bien, puisque... Il y a des actus toutes chaudes que je n'ai pas eu le temps de traiter sur US Racing. Je plaide coupable, mais bon, ce n'est pas bien grave, on en parle dans l'émission. Voilà, il se pourrait que le calendrier 2020 d'IndyCar évolue encore du fait de la pandémie de coronavirus. Ce sont tout simplement les déplacements dans le Grand Ouest qui sont menacés, à savoir du côté de Portland dans l'Oregon et du côté de Laguna Seca en Californie. Donc l'IndyCar réfléchirait à des solutions de repli.
Parce que là, ça fait trois courses qui sautent, hein, puisqu'à Laguna Seca était prévu un double header.
À Laguna Seca était prévu deux épreuves, comme tu le rappelles si bien, Lilian. Donc 14 courses moins 3, ça ne ferait plus que 11.
C'est clair. Sachant qu'on en a déjà fait 6.
C'est vrai.
Donc à date, potentiellement 50%.
Voilà, donc bon, après, quelles seront les pistes privilégiées? Pour l'instant, il n'y a pas d'information qui a fuité. On essaye toujours de maintenir Portland et Laguna Seca pour l'IndyCar, mais voilà, il se peut que les choses évoluent. On sait qu'on a une solution de repli du côté d'Indianapolis, mais ça va peut-être faire beaucoup quand même, hein, si on fait la moitié de la saison à Indianapolis.
Bah ouais, mais bon, c'est Roger Penske le patron, qu'est-ce que tu veux?
Pour le coup, il a quand même pas de peau pour sa première saison en tant que patron de l'IndyCar. C'est quand même une année un peu pourrie. Certes, ce n'est pas de sa faute.
Non, bien sûr.
On est bien d'accord avec ça, mais ça fait drôle. C'est pas forcément ce à quoi on s'attendait pour une première année à la tête de l'IndyCar, surtout quand on s'appelle Roger Penske.
Mais en tout cas, j'espère que l'IndyCar va savoir rebondir. Pour quand même nous trouver des dates supplémentaires, parce qu'un championnat IndyCar avec seulement 11 courses, tu l'as dit, on nous avait vendu il y a quelques années que le calendrier allait être de plus en plus fourni. Finalement, ça s'est stabilisé vers 16-17 courses. Et puis là, on tombe à 11 du fait de la pandémie. Je pense que ça peut donner... du grain à moudre à Aloïs pour l'émission qu'on vous prépare pour semaine prochaine.
Je ne comprends pas pourquoi tu dis ça, mais alors, pas du tout, du tout, du tout.
On verra si d'ici là, on aura des infos supplémentaires à vous donner, hein, mais...
Effectivement.
Ouais.
Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur la partie IndyCar, Lilian. Donc bon, pour deux minutes d'IndyCar, je n'allais pas mettre un générique. Le générique est presque plus long que l'actu IndyCar en elle-même. Voilà, c'était juste pour que tu réagisses et que les auditeurs aient l'info.
Donc, bien sûr.
Donc voilà, on va bien évidemment basculer maintenant sur la NASCAR, Lilian, avec l'épreuve du Kansas en Cup qui a eu lieu donc jeudi soir aux États-Unis. On le rappelle, pourquoi jeudi soir et non pas dimanche? Sur les 68 derniers jours, il y a eu 16 courses de Cup. Ça fait une course tous les 4 jours et demi en moyenne. C'est un truc de dingue. C'est un calendrier démentiel avec des déplacements. Alors certes, on n'est pas allé en Californie, en Arizona et tout, mais on a quand même beaucoup bougé avec des courses parfois en semaine.
Ah, mais on est un peu proche des ratios qu'on pouvait avoir dans les années 60-70.
Oui, c'est ça. Mais bon, sauf qu'à l'époque, je ne vais pas dire que c'était normal, mais seules les grosses équipes ne faisaient pratiquement que l'intégralité du championnat.
Et encore, oui.
Certains dans les années 60 ne faisaient pas tout le championnat. Étaient champions celui qui était le plus fiable et qui faisait le plus de courses, globalement. C'est peut-être un petit peu réducteur de dire cela, mais voilà, quand tu avais 100 courses dans la saison, ben, si tu en faisais 80 et que tu allais au bout à chaque fois, je vais pas dire que tu t'appelais Richard Petit, mais pas loin.
C'était l'idée, quoi. Les 200 victoires, elles viennent de là aussi.
Ça aide aussi, mais
Le
bon,
nombre de courses faites.
c'était un autre temps, c'était l'ère des pionniers, comme on l'appelle du côté du Hall of Fame de la NASCAR. Mais là, c'est vrai que c'est un calendrier qui est juste démentiel. Et avoir 9 ou 10 jours pour tout le monde pour souffler, ça va faire un bien fou. Parce que ben, faut pas oublier qu'on va repartir à partir de Loudon le 2 août. Et on s'arrêtera mi-novembre à Phoenix. Donc on va partir pour 17 courses.
Et puis on arrive quand même dans la période la plus tendue de la saison avec les 10 semaines de playoffs qui se profilent.
Oui.
Là, bah, c'est les dernières semaines et puis bah, on voit que ça commence à se tendre hein, tout doucement.
Ça commence à sérieusement se tendre
On.
et on n'a pas de nom de réel pilote éliminé, mais on commence à avoir des noms pour qui, excuse-moi
Ça devient très compliqué.
voilà, j'allais dire ça pue,
Je me
parce que c'est un
demandais
peu
que tu.
l'idée. On va y revenir juste après, parce que là, on a la transition, elle est toute trouvée pour cette épreuve du Kansas, Lilian. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais dans la façon dont ça a été présenté par NBC en fin de course, c'était la revanche d'Indianapolis.
Oui, parce qu'on s'est retrouvé avec les mêmes protagonistes en tête.
Denny Hamlin et Kevin Harvick.
Ah oui, voilà, donc à ce moment-là, 4 victoires chacun, si je ne me trompe pas.
Exactement.
Puis bah finalement, Kevin Harvick a eu du mal à, comment dire, bah, il a eu du mal à lutter, hein. Très, très clairement, il y a
Oui.
Martin Truex Jr. et Brad Keselowski qui l'ont passé.
Oui. Tout au long de la course, en fait, Brad Keselowski a lutté, j'ai le sentiment.
Oh, bah,
Enfin,
je veux dire,
il
ça n'a pas
était.
été le seul. Il y en a quand même beaucoup qui ont eu du grain à moudre pour maintenir leur voiture.
Il
Hein.
n'était pas serein, il n'était pas aérien comme il a pu l'être par le passé sur cette piste ou sur
Ouais, mais il était
certains.
là.
Il était là, mais on va dire il était là, mais discret. Après, il a fait le taf, hein, il termine dans le top 5, mais on pouvait presque s'attendre à mieux. Il faisait partie des favoris légitimes avec 3 victoires sur ce tracé, 3 deuxièmes places aussi. C'était clairement l'homme à battre, mais non, ça ne l'a pas fait.
Bah.
Encore une fois, c'est tout sauf scandaleux, hein.
Non, c'est clair. Après, quand on voit le début de course, tu vois, j'aurais bien misé sur un Ryan Blaney qui paraissait quand même très très fort,
Oui.
qui malheureusement a tapé le mur, ou non, il a crevé, du coup il a tapé le mur, donc il a endommagé assez fortement sa voiture qui plus est sous drapeau vert.
Oui.
Donc il finit aux alentours de la 20e place ou 19e, quelque chose comme ça.
Ryan Blaney termine 20e tout pile.
Voilà, donc et ouais, il a encore mené un paquet de tours, mais ça l'a pas fait non plus malheureusement pour lui cette semaine. Bon après, il n'y a pas à s'inquiéter pour lui, hein, il sera dans les playoffs.
Oui.
Il doit avoir une victoire. Il me semble qu'il ait une victoire, Ryan Blaney.
Oui, Ryan Blaney a une victoire, bien sûr.
Oui, il a une victoire. Donc, mais ouais, niveau Penske, j'aurais plutôt misé sur lui.
Et bah non, c'est. Il y a eu un petit souci pour Ryan Blaney, mais bon,
Oh, il n'y a pas
c'est
eu que
ainsi.
lui,
Ouais.
hein. Kyle Busch a tapé le mur aussi.
Oui.
Et, ben, je pense à ça, à aparté rapide sur Kyle Busch, premier segment gagné de la saison.
Oui, ça fait drôle hein, d'entendre ça. Hein.
Non, mais c'est. Je regardais un peu les stats. Enfin, c'est autant. Attends, hop, je ressors les. Ouais, c'est autant qu'un Kurt Busch, qu'un Tyler Reddick, qu'un Jimmy Johnson ou qu'un Ricky Stenhouse.
Le mieux classé de ceux que tu as cités est 15e. Kyle Busch est 9. Kyle Busch est 9e. Enfin, c'est dingue. Hein. Pourtant, on le voit sur certaines courses, il est présent. Alors, c'est vrai que par moments, il joue de malchance. Il peut enchaîner, on va pas dire des boulettes, mais il peut enchaîner avec des problèmes techniques, comme c'est là le cas avec une crevaison. Et il n'est que 9e du championnat, juste devant son frère. Un point devant son
Ouais.
frère, à 200 points. Donc 200 points, 4 courses, en gros.
Et on voit, comparaison, Alex Bowman a gagné 4 segments et il est 11e du classement.
Oui. Mais Alex Bowman, depuis la reprise, c'est un coup ça va, un coup ça va pas. Le problème, c'est qu'on a fait 12 courses, quoi. Donc,
Ouais.
ça pique un peu, quoi. Donc, non, franchement, le top 5, top 6, ouais, et même top 7 du championnat est logique. Quand on regarde, enfin, c'est ceux qu'on voit devant toutes les semaines ou presque. Kevin Harvick, Brad Keselowski, Ryan Blaney, Denny Hamlin, Chase Elliott, Joey Logano, Martin Truex Jr. Globalement, on les voit toutes les semaines ou presque.
Avec
D'autant
Elmiro là, depuis la reprise, on le voit énormément.
on le voit, ouais, on le voit plus. Kyle Busch, bah, comme dit, on le voit, mais parfois ça ne concrétise pas. Kurt Busch, on le voit moins. Alex Bowman, on le voit de moins en moins.
Ouais. Kurt
Donc
Busch,
voilà.
souvent le meilleur représentant Chevrolet. Pas toujours, mais c'est très régulier.
Bah, quand c'est pas lui, c'est Chase Elliott.
Voilà. Oui, c'est clair.
Ça rappelle un petit peu la saison 2019 hein, chez Chevrolet.
Bah, il y a du mieux, mais ouais, c'est quand même peu mieux faire, hein. Disons qu'en début de saison, les résultats de Chevrolet étaient, je ne vais pas dire tronqués, mais ils étaient quand même bien mis en valeur parce que Toyota était à la rue.
Ouais, ils étaient plus qu'encourageants et là, ils sont
Et puis
presque
Toyota est
repassés en
clairement
décevant.
revenu.
Ouais.
Et puis Toyota est revenu au niveau des Ford, Penske et Stewart Haas. Et c'est vrai que là, les Chevrolet Hendrick, c'est quand même plus compliqué.
C'est plus compliqué. Mais bon, Chase Elliott, on l'a pas trop vu en début de course. Il est bien revenu sur la fin. À la stratégie, Byron et Bowman ont failli jouer quelque chose de mieux qu'un top 10. Donc,
Oui, on a bien vu Bowman, hein. Pas Bowman, pardon, Byron, ouais, qui sous drapeau vert a dépassé Keselowski, il a mené un petit paquet de tours
Oui.
jusqu'au drapeau jaune qui a suivi, où il a pris que deux pneus.
Oui. Bah on a tenté, hein. De toute façon, c'est que ça fait clairement partie des pilotes qui se doivent de tenter
Bien sûr, et ça va aller
pour.
crescendo sur les quelques courses qui
C'est
restent.
ça. Faut se qualifier pour les playoffs. Pour l'instant, William Byron, c'est le dernier qualifié. Donc, bah, faut tenter quelque chose. Faut tenter. Alors, on va revenir un petit peu sur cette course, Lilian, parce qu'il y a quand même. À chaque fois, je le dis, énormément de choses à dire, mais c'est encore plus vrai. Alors, on va faire le top 10 rapidement. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais finalement,
Vas-y, vas-y.
c'est un top 10 logique. Il n'y a presque aucun nom sur lesquels faut s'arrêter. Il n'y a pas eu de surprise particulière. Je veux dire, Denny Hamlin, Brad Keselowski, Martin Truex Jr., Kevin Harvick, Eric Jones, Arik Almirola, Cole Custer, cette fois-ci c'est lui au niveau des rookies, Alex Bowman, Kurt Busch, William Byron.
Oui, comme tu dis, c'est relativement logique, c'est clair.
Voilà. Hormis Kyle Busch, bon, qui a un petit peu perdu, peut-être pas le fil sur la fin, mais c'est vrai qu'en tapant le mur, ça l'a un peu moins aidé. Enfin, ça l'a pas aidé plutôt. Et du coup, bah, il ne fait que 11e. Mais sinon, voilà, tous les protagonistes qu'on a pu voir pendant la course étaient bel et bien présents à la fin. Par contre, il y a encore eu de la casse. Il y
Il
a
y a
eu
eu
de la
beaucoup de casse quand
très
même
grosse
encore.
casse. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par le 40e. C'est pas pour me foutre de lui. Ricky Stenhouse Junior. Et cette stat, elle est dingue parce qu'elle est passée pendant la course. Je pense que tu y as prêté attention,
Oh, bien sûr.
Lilian. Alors, hormis le fait que ce soit le cinquième abandon déjà de Ricky Stenhouse Junior cette année, ce qui explique en partie sa 25e place au classement général, c'est surtout la quatrième arrivée consécutive de dernier pour un pilote de la JTG Doherty Racing. Il y avait eu Ryan Preece qui avait fait dernier des trois courses précédentes. Une petite stat qui fait très très mal à l'équipe, alors que bon, il y a parfois de belles choses.
Ouais, c'est. Et puis, ben, je vais rebondir justement sur la cause de l'abandon de Ricky Stenhouse pour un incendie qui s'est déclaré dans sa voiture. C'est quand même relativement rare. Je n'ai pas souvenir d'avoir eu un abandon pour cette cause. Même lui, apparemment, enfin, il n'a pas su pourquoi un incendie s'était déclaré à l'intérieur de sa voiture.
Non,
Donc par sécurité, voilà, on l'a arrêté, mais ouais, c'est relativement peu courant.
c'est clair que c'est pas la chose la plus récurrente. Bon voilà, donc c'était pour parler un petit peu de Ricky Stenhouse Jr. qui, bah, comme son coéquipier, n'a pas eu de chance. On va y revenir juste après à Ryan Preece, parce que avant lui, il y a eu Joey Logano, Matt DiBenedetto, Jimmy Johnson. Alors Joey Logano, il fait 35e. C'est embêtant, c'est pas grave. Il y a déjà une qualification pour les playoffs qui est dans la poche. Par contre, Matt DiBenedetto et Jimmy Johnson, ça joue les playoffs. Clairement. Matt DiBenedetto, il est 13e du classement général. Donc, pour l'instant, il est 15e du classement playoff. Donc, il est qualifiable. Jimmy Johnson est 18e du classement général. Donc, 18e, en fait, il est... il est 19e du classement playoff. Puisque Cole Custer est derrière lui. Donc, de William Byron, qui a 452 points, il en a 434. Donc, si je ne dis pas de bêtises, ça fait 18 points de retard.
Et c'est ça.
J'ai de plus en plus de mal à voir Jimmy Johnson combler un tel déficit.
Bah, tu l'as vu pendant la course. Ils ont fait un petit résumé rapide de sa saison. Le nombre de fois qu'il est impliqué dans des accidents, qu'il va taper le mur ou qu'il fait des erreurs. Je ne sais plus quel est le commentateur d'NBC, si c'était Jeff Burton ou Steve Letarte, qui même, eux, l'ont avoué, pour un pilote 7 fois champion de la discipline, il fait quand même des sacrées boulettes quoi, ces derniers temps.
Ouais, c'est bien pâle. Donc, Jimmy Johnson en playoff, on aimerait bien tous, quand même, pour que la tournée d'adieu soit belle et complète à l'issue d'une saison quand même délicate, tronquée avec le coronavirus, non, puisqu'il y aura bien eu 36 courses, mais oui, parce qu'on a quand même eu plusieurs semaines d'arrêt, on a presque plus de public, on n'a plus aucune interaction avec les fans dans les garages, il a manqué Indianapolis après avoir été testé positif, donc clairement, c'est une année un peu pourrie.
C'est une année pourrie, mais à date...
Ben à date, mais il est pas dans les playoffs.
Il mérite pas d'être dans les playoffs.
Pour moi, c'est logique qu'il y soit pas à date.
Non, malheureusement, je veux dire, il a 18 points de retard sur le dernier qualifié.
On n'oubliera pas quand même que dans ces 18 points de retard, il y a une course à Charlotte où il a perdu le bénéfice de sa deuxième ou troisième place. Conforme. Ouais, non, mais voilà. Il y a aussi. Alors, je crois qu'il y en a d'autres qui ont été disqualifiés cette année. Mais pour Jimmy Johnson, clairement, entre ne pas avoir les 30 et quelques points qu'il avait glanés, voire même un peu plus, et les avoir, là, aujourd'hui, ça joue.
C'est le jeu.
C'est le jeu. Hein, c'est le règlement. Mais ça pourrait jouer. Et si ça se joue à ces points-là en fin de saison régulière, on pourra se dire que. Voilà, il y a peut-être eu un gros raté du côté de la Hendrick et de la numéro 48 du côté de Charlotte.
Mais peut-être, même au-delà de ça, enfin, on parle de Jimmy Johnson pour qu'il puisse se qualifier au point. On n'est pas en train de parler, comme tu dis, je sais pas, d'un Di Benedetto, d'un Almirola. Ou d'un rookie, on parle de Jimmy Johnson.
Et dans les courses qui restent d'ici la fin de la saison régulière, il y a deux fois Dover. Mais de ce qu'il nous montre, même à Dover, on ne le voit pas gagner. Malheureusement, il faut être
honnête. Jimmy Johnson pouvait gagner partout. On l'a attendu maintes et maintes fois à Martinsville. Ce n'est jamais arrivé.
Oui, je te confirme.
je veux dire, il aurait pu... Enfin, on l'a attendu sur plein de pistes. Tu parles de Dover. Voilà, il y aurait... Il peut aller gagner là-bas, clairement. Mais Jimmy Johnson, malheureusement, c'est... Il a peut-être fait les quelques saisons de trop.
Ouais, et pourtant... Fin...
Parce que là, il va quand même quitter la discipline, potentiellement, en n'ayant pas gagné depuis quasiment 3 ans.
Bah, plus de 3 ans. Donc, c'est triste, mais...
J'ai envie de te dire, triste fin pour un grand champion qu'il a été, et presque même détesté parce qu'il gagnait trop et tuait la concurrence.
Voilà. Mais tous les champions ont eu des cycles et des creux. Je pense notamment à Jeff Gordon. Mais ça revenait. Et là, le problème pour Johnson, c'est que le creux, il est vraiment en fin de carrière. Et c'est ça qui est dommageable.
Ouais, mais tu parles de Gordon. Il arrivait à en chercher une par-ci, par-là.
Oui.
Il allait décrocher quelques top 5. Johnson, on n'y est pas, quoi. C'est deux top 5 depuis le début de la saison.
Effectivement.
Et 6 top 10.
Ouais. C'est faible quand on s'appelle Jimmy Johnson et qu'on est.
Et pour continuer dans les stats, c'est 99 tours menés. Quand Kevin Harvick emmène 700. Et Denny Hamlin, Ryan Blaney, c'est plus de 500.
Ouais, non, mais c'est
Gano, pareil. Donc voilà.
quand tu fais les chiffres, enfin quand
Et
tu
il
mets
n'est pas à
tout
la
bout à bout.
JTG
Oui,
ou...
c'est Hendrick. Donc voilà. Donc si on se remet dans la chronologie, on était au tour 177 de la course. Et restart au tour 182. Et alors là, Lilian, le carton, pas de l'année, mais en tout cas le carton depuis la reprise. Parce que le carton de l'année, à mon sens, restera celui de
Ce sera
Newman à
Ryan
Daytona.
Newman.
Et d'ailleurs, les images ont été un petit peu comparées, puisque Ryan Newman est impliqué à son corps défendant dans cet accident avec Ryan Preece, Chris Buescher et Christopher Bell. Mais quelle boîte va prendre Ryan Preece avec un angle horrible? Et je pense que tu as été comme moi quand tu as vu l'image, tu t'es dit, oui, ça va faire très mal.
Bah encore une fois, d'abord, bah merci la
Oui,
sécurité
oui.
dans les voitures et puis bah, les murs safer à l'intérieur et à l'extérieur de l'intégralité de la piste.
Oui.
Parce que je pense que sinon, il était à ramasser à la petite cuillère, hein, son mur safer,
Ah ben, je
Ryan
pense que
Preece,
ça
quoi.
pouvait faire un peu comme Kyle Busch à Daytona
Ouais.
en 2015.
Et puis là, il s'en est manqué de peu que la voiture parte en tonneau. Elle retombe miraculeusement sur ses roues,
Oui.
du moins ce qui en reste.
Oui, ce qui reste de l'épave, hein.
Et voilà, c'est vrai, c'est comme tu dis, déjà il y a l'angle et puis il y a la vitesse, quoi. C'est quel choc.
C'est horrible. Je n'ai pas les données, mais je pense que quand la NASCAR va publier ces données, on va encore avoir des chiffres hallucinants. La décélération qu'il prend en tapant le mur. Bah voilà, merci la sécurité. Et finalement, heureusement que c'est une épave, puisque enfin, c'est que tous les organes de la voiture ont fait leur travail. Et voir Ryan Preece sortir tout seul de sa voiture au bout de 10 ou 20 secondes, c'est quand même un gros soulagement parce que. Clairement, on n'aime pas voir ce genre d'accident. On n'aime pas forcément en voir tout court d'ailleurs. Mais l'angle était horrible. Et enfin, on s'est dit ça va faire très très mal. La hauteur de la voiture au moment
Oui.
du choc sur le mur, c'est impressionnant. Et finalement, enfin, maintenant on peut en rigoler parce que Ryan Preece va bien. Mais le seul qui est content dans cette affaire, c'est Dale Earnhardt Jr. parce qu'il a récupéré une épave pour son cimetière de voiture, quoi. C'est triste à dire, mais.
Potentiellement, ouais.
Ouais, là, celle-là, elle roulera plus, hein.
Bah, je suis pas sûr qu'il y ait grand-chose à sauver, à part peut-être le volant, mais.
Oh, oui, encore. Et encore. Parce que avec un tel choc.
Ouais. Donc ouais, c'est un des faits, ouais, un des faits marquants de cette course du Kansas.
Effectivement. Et donc là, on était autour 183 au moment de cet accident. On a eu un très léger drapeau rouge de 2 minutes 45 qu'en fait on n'a même pas eu le temps de voir pendant le direct parce que le temps de montrer tous les ralentis, le drapeau rouge était déjà enlevé. Et puis on était au cœur, on va dire, de cette course et des incidents qui se sont enchaînés avec une fin de deuxième segment, Lilian, et un début de troisième segment qui ont été, alors pas atroces à suivre, mais très hachés. Et
Oui.
ça peut arriver au Kansas en fait, c'est un peu une piste piégeuse. On a retrouvé une piste Kansas anti-Kyle Busch. Eh oui, non mais tu rigoles, mais il a souvent eu des difficultés au Kansas en Cup. Ça a souvent été la piste détestée de Kyle Busch. Et là, ça a été un peu le
Je
cas.
savais plus si c'était Kansas ou Kentucky.
Non, Kansas, Kansas.
C'est
Kentucky, il a
Kansas,
déjà
ouais,
gagné.
je sais pas,
Non, parce
j'ai ouais.
que Kansas, c'est pendant les playoffs. Et on en rigolait souvent pendant les playoffs en disant, ouais, de toute façon, c'est le Kansas, faut pas mettre Kyle Busch. Et un jour, il a fini par y gagner. Et il a un
Il
peu.
l'a gagné maintenant, c'est bon.
Il a un peu vaincu le signe indien, quoi, pour rester un peu dans la thématique du Kansas, mais c'est voilà, c'est clairement pas la piste de Kyle Busch, et ça s'est encore un petit peu vérifié ce jeudi soir avec ses problèmes de crevaison et sa 11e place. Et enfin, Kyle Busch et Ryan Blaney qui crèvent, ça ne crée pas de drapeau jaune, par contre, Corey LaJoie qui a le même problème, drapeau jaune. Ça m'a fait
Oui,
sourire.
mais bon.
Ça m'a fait sourire, je suis désolé, j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai souri en plein direct à 4h du mat, quoi.
Ça, tu sais que voilà, c'est un petit peu quand ça arrange ces messieurs de la NASCAR. Hein.
Ouais, peut-être aussi un petit peu. Donc voilà, et.
Et puis non, puis il y a quand même eu des sacrés restarts, hein, d'une sacrée intensité, j'ai trouvé. Si c'est ça
Oui.
jusqu'à la fin de la saison régulière.
Ça
On
peut être
n'est
bon.
pas au bout de nos surprises.
On n'est pas au bout de nos surprises. On a eu de très belles choses, notamment sur la fin de course, là, les restarts entre Byron, Keselowski, Bowman, Harvick.
Byron Bowman aussi, ouais.
C'était bien. Enfin, c'était tendu mais propre. Et c'est vrai que derrière, on avait du 3, 4, 5 de front. Il y a des moments où on se dit ça passera pas, quoi. Et si, ça passait.
Et il n'y a pas besoin de PG1 pour qu'il y ait plusieurs lignes.
Oui, on est d'accord.
Là, il y avait, comme tu l'as dit, il y avait quatre lignes, parfois presque cinq.
Oui.
Voilà, enfin, faut arrêter, quoi.
Effectivement.
Aloïs, c'est pour toi.
C'est ça. Non, mais, enfin, mais tu vois, on vient de faire un débrief de course, on est pratiquement à 25 minutes, on n'a pas parlé de PJ1 en mal, parce qu'il n'y en avait pas. D'habitude, on fait des débriefs de course, on met 10 minutes dans la gueule du PJ1, quoi.
Non,
Enfin.
mais ouais. Ah, je sais pas, pour moi ça sert un peu de référence, quoi. On s'est
Ben
pas fait
oui.
chier.
Ah non, mais
C'est voilà, c'était du très bon Kansas. C'est la fin de course, c'était super intéressante à suivre. Des restarts de folie.
oui.
Et comme tu dis, ça a été très propre.
Ça a été propre. Ouais, une course qu'on a bien aimée. Je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose sur le Kansas Lilian, mais sinon je te propose de conclure.
Bah écoute, non, petite pause pour les pilotes et pour nous, bah, qui fera du bien aussi. Hein. Ce
Voilà,
week-end, on
nous.
pourra se reposer un petit peu.
Oui, pas de NASCAR, pas d'IndyCar, enfin pas de NASCAR, pas de Cup, pas d'IndyCar. On a de la Truck et de la Xfinity pour ceux qui voudraient continuer de suivre ça. Et nous, on va se retrouver la semaine prochaine. Je ne sais pas quel jour, ça va dépendre un petit peu de tout le monde.
Les plannings, ouais.
On fera une émission un petit peu bilan NASCAR sur la partie gestion de la crise liée au coronavirus, que ce soit, on va dire. L'annulation, le report, le retour à la compétition, les pistes utilisées, on essaiera de faire un petit peu un melting pot de tout ça. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire, on a chacun nos avis. Je sais qu'Aloïs est chaud comme une baraque à frites et prépare
Ah
ses
bah c'est pour
arguments.
ça qu'il est pas là, il est
Donc,
déjà dans sa ré dans ses rédactions.
c'est ça. Et a priori, il est déjà à 300 pages. Et
Et il est
donc,
qu'à l'intro.
c'est ça. Donc voilà, on va se retrouver nous dans le courant de la semaine prochaine, vous suivrez ça. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Bonne fin de semaine, amusez-vous bien. Rendez-vous la semaine prochaine, bye bye.
Bonne semaine à tous, à la semaine prochaine.